de profession, et c'est après avoir travaillé pas longtemps, ça fait c'est une quinzaine d'années que je vis autour du logiciel libre, soit dans la conception de logiciel libre, soit dans l'utilisation de logiciel libre pour faire des outils de production ou des outils de service. Donc c'est là-dedans que je baigne en tant que praticien, informaticien, programmeur. Voilà, donc je vous raconte ce que j'avais envie de vous montrer, c'était de manière assez pratique, donc de passer le cycle de vie d'un logiciel libre pour observer un peu cette méthode de fabrication, en quoi elle est un peu différente de ce qui existait aujourd'hui, et quels enchaînements de compétences elle amène en termes de distribution et surtout vis-à-vis de ses utilisateurs. Donc en deux morceaux, décrire en pratique cette fabrication et les canaux de distribution, puis les conséquences sur les usages. Et avec Enfin bon, vous verrez. Donc c'est un premier point qui va faire un espèce de discours de genre peut-être 10 minutes. On a deux annexes possibles hein, qui sont tout ce qui tourne d'une part autour des aspects législatifs, donc qui ont été abordés sur le droit d'auteur d'une part et sur la brevetabilité des logiciels d'autre part, et un autre point sur que représente aujourd'hui en vérité dans notre consommation de tous les jours, dans notre utilisation de tous les jours les logiciels libres, parce qu'une partie est visible et une grande partie est invisible aussi, et on en utilise sans les voir quand on va sur Internet, on fait que ça en fait. Et ma petite présentation, de voir peut-être de passer, c'est plutôt comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner d'habitude, par un jeu de questions-réponses pour voir vers où on peut enchaîner la suite du débat. Mais je sens la présentation qui a été faite et ce que je vais vous raconter qui est très complémentaire. En fait, il va peut-être manquer une conclusion sur les conséquences de tout ça. On a effectivement la même analyse et j'ai une discussion. Donc au départ de la fabrication d'un logiciel libre, mais pour l'instant on ne le sait pas, c'est un programmeur qui est insatisfait des outils qui sont à sa disposition et qui va vouloir décider d'en fabriquer un correspondant à son usage. On ne sait pas pourquoi il est insatisfait, ça peut être parce que ce qui est disponible à un prix trop élevé pour lui, ça peut être parce qu'il ne trouve que des trucs trop évolués ou pas assez évolués, mais c'est une volonté de sa part, ouais, ça va être une volonté de sa part d'entamer un développement logiciel. C'est lui qui va rédiger le cahier des charges, donc il va définir quels sont les buts à atteindre. Et c'est lui qui sera son premier utilisateur final. Donc c'est quelque part, c'est aussi lui ensuite qui va publier et fabriquer un premier prototype et qui va essayer d'agréger des compétences de sa fabrication. Et si cette agrégation de compétences est suffisante, il va arriver à mener à bien une réalisation utilisable et complète. Donc tout ça, pour l'instant, ça ne décrit pas un logiciel libre en fait, à part peut-être la motivation de départ, qui est une motivation personnelle, au lieu d'être une motivation imposée par une position ou une autre forme d'ordre non volontaire. Jusqu'à là, on est dans c'est fait. C'est comme ça que sont fabriqués les logiciels à usage interne au jour le jour dans les entreprises. Et la quasi-totalité du développement informatique n'est pas destiné au grand public. Il est avant tout à usage dans les entreprises pour elles-mêmes. La plupart des logiciels fabriqués sont des logiciels sur mesure à usage unique, entre guillemets. Et c'est l'invention et la spécificité du logiciel libre consiste pour son fabricant à renoncer à la propriété du logiciel au bénéfice de tous. C'est ce qui sera fait au moyen d'une licence légale qui va accorder à chacun les droits d'utiliser, d'étudier, de modifier et de distribuer le logiciel. C'est la propriété du logiciel va échapper à son créateur, mais en contrepartie, il va pouvoir agréer des compétences au-delà de ses ressources. C'est parce qu'effectivement, il va perdre la propriété, mais d'un autre côté, là, il va pouvoir obtenir de l'aide et des ressources largement en dehors du champ auquel il était. Et tout ça, ce qui est en état de avant-achèvement devient possible au grand jour. Il peut le diffuser à tout le monde sans problème parce que personne, de par la licence qui est attachée, n'est plus en mesure de se l'accaparer. C'est-à-dire le logiciel ne lui appartient plus, mais le logiciel ne peut plus appartenir à personne en particulier, donc peut le faire savoir pour aller trouver des gens qui vont venir l'aider. Alors c'est une méthode qui plaît beaucoup aux industriels, parce que c'est évidemment ils vont utiliser des ressources qui ne sont pas des ressources, ils vont utiliser des ressources extérieures et à coût nul. Donc, c'est quelque chose qui leur plaît tant que leur objectif est de disposer de l'outil final, quitte à le partager avec tout le monde. C'est pas le cas forcément pour toute chose, mais il y a plein de logiciels qui sont fabriqués uniquement pour pouvoir disposer d'un outil et qui n'ont pas pour vocation d'être commercialisé, vendu, distribué. On a juste besoin de cet outil-là pour pouvoir l'utiliser. Et dans ce cas-là, tous les industriels, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Dassault, IBM, machin, tous utilisent des logiciels libres, ils veulent d'abord l'outil et ils s'en foutent si les autres l'ont aussi, ça ne les gêne pas particulièrement. Donc la licence des logiciels libres va permettre de constituer une communauté de développeurs accessible à tous. Aujourd'hui, en pratique, ça prend la forme SourceForge, par exemple, dont vous parliez. En tout cas, un site web sur lequel on va retrouver forcément les codes sources, des moyens de communication, des forums, des listes de discussion et de la documentation. C'est la libre engendre aussi une méthode de gouvernance par scission qu'on retrouve plus facilement à la CNT que dans le monde des informaticiens. C'est-à-dire que quand on fabrique un logiciel, on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on peut fabriquer un logiciel avec une personne ou avec 100 personnes en allant 100 fois plus vite. Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? Ben non, parce que c'est la cohérence interne du code informatique nécessite une forme de pensée unique qui va guider sa réalisation. Il y a toujours un chef dans une communauté de développeurs, on lui fait des propositions, mais c'est lui qui va décider d'inclure ou de ne pas inclure les propositions. On peut essayer de faire autrement, on peut essayer de découper en modules pour accélérer la réalisation, en mettant 100 personnes au lieu d'une seule dessus, justement. Mais si on va toujours aboutir à quelque chose, si on n'a pas cette espèce de pensée unique à l'intérieur du code et en qualité. C'est effectivement le cas de Linus Torvald qui préside à la fabrication du kernel Linux. Et il y a quelques milliers de programmeurs qui lui envoient des propositions. Et c'est lui, il est derrière ou de ne pas les mettre à l'intérieur. Mais si on reprend le contenu de la licence libre, où chacun a le droit de modifier, distribuer, changer comme il l'entend, c'est la communication au sein de la communauté de développement logiciel étant entièrement ouverte, libre et non censurée. Toute insatisfaction qui va agréger une part suffisante de la communauté va créer ce qu'on appelle un fork, une scission, qui va aboutir à des développements séparés. Et c'est le fork est tellement répandu dans la pratique du développement libre qu'il n'est pas vécu comme une sanction, une horreur ou un truc comme ça, mais comme une méthode de régulation naturelle souhaitable qui va permettre de remettre sur des rails des développements qui tentaient de ménager la chèvre et le chou et de répondre à des besoins qui commençaient à de répondre simultanément à des besoins qui commençaient à n'avoir plus rien à voir les uns avec les autres. voir si on doit prendre des exemples de logiciels comme ça, c'est les trucs comme Word ou les Office ou les espèces d'énormes usines à gaz qui font tout et rien et qui en deviennent à peu près inutilisables pour le commun des mortels. Si on les avait mis dans le monde du libre, ça fait longtemps qu'ils auraient forqué et qu'on aurait eu des petits modules ou des trucs plus faciles à gérer. Et c'est un peu ces deux éléments-là, à mon sens, qui font la force du développement du logiciel libre. C'est l'existence des communautés de développement et le fork, donc le mécanisme de la scission, qui forme une supériorité qualitative sur les logiciels propriétaires qui ne peuvent pas bénéficier ni des idées neuves qu'apporte une communauté ouverte, ni de la garantie de bonne fin qu'apporte un fork. C'est là qu'on voit effectivement des logiciels dont le développement commence et qui vont s'arrêter parce qu'ils sont arrivés dans une voie de garage, parce que le lead développeur a merdé et personne n'a pu forquer, personne n'a pu lui retirer le lead, ou des choses qui deviennent absolument compliquées et rocambolesques parce que les idées neuves ne sont pas arrivées et n'ont pas permis d'aboutir aux simplifications logicielles. Donc ça ne serait pas le cas effectivement si on pouvait, comme tu disais, contrôler et prévoir le